Tourisme, bonjour. 1er novembre aujourd'hui, du changement dans l'air, réforme de l'assurance chômage, hausse du prix du gaz. Et pourquoi pas changer d'air aussi en respirant mieux. Novembre, mois sans tabac. Pour arrêter, on peut se faire aider. Tabacologue et coach, ça peut marcher, vous l'entendrez. Emmanuel Macron avait promis plus de pouvoir d'achat pour les personnes handicapées. L'allocation revalorisée aujourd'hui, du mieux, mais pas pour tout le monde, dénoncent les associations. Dans ce journal aussi, une fusillade fait 6 blessés cette nuit à Marseille. Des eurodéputés attendent toujours de pouvoir s'installer dans leur fauteuil à Strasbourg quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union. Et pour certains, le temps devient long. Un cercueil en carton pour réduire son bilan carbone même après sa mort. Et Rembrandt face à Velázquez, deux grands maîtres de la peinture du XVIIe au Rijksmuseum à Amsterdam.
L'auteur, réalisateur et acteur Nicolas Bedos signe La Belle Époque, un film très attendu qui sort en salle mercredi prochain. Nicolas Bedos sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50.
France Inter.
Un mois pour essayer ou arrêter de fumer.
C'est d'habitude plutôt une bonne résolution du 1er janvier. Demain, j'arrête fin des cigarettes. Mais novembre, ça n'est pas que le mois des averses et du froid qui revient. C'est aussi le mois sans tabac. Et pour remiser les paquets au fond des placards, chacun sa technique, en groupe, seul, d'un coup, progressivement, ou avec un coach, métier qu'exerce Alice Denoise depuis 3 ans. Véronique Julia a assisté à une consultation.
Bon alors, racontez-moi, comment ça va ?
Bah écoutez, pas de cigarette là pendant une semaine. J'ai plus envie de cigarette, on va dire.
Alice est en contact au moins une fois par semaine avec Capucine. Ce jour-là, c'est au téléphone. Capucine, 37 ans, fumait depuis l'adolescence une dizaine de cigarettes par jour. Elle est passée depuis une semaine à la cigarette électronique. Alice est contente d'elle.
Qu'elles disent que déjà la cigarette commence à être un peu oubliée. Donc déjà au bout d'une semaine, je trouve ça assez magnifique. On sent qu'elle a confiance en elle.
Capucine a encore besoin de mettre de la nicotine dans sa cigarette électronique. Pas de problème, on réduira la dose petit à petit, commente Alice.
Tout le monde n'a pas besoin de nicotine, elle, visiblement, elle en a besoin. Donc là, elle est à 6 mg, donc en fait, elle va rester un mois comme ça. Ensuite, elle va passer potentiellement à 3 mg, et puis après, passer à zéro. Faut surtout pas qu'il y ait de sensation de stress.
3 semaines de coaching déjà, mais avant d'éteindre sa dernière cigarette, on prépare son geste, une règle d'or, anticiper.
Faut pas se dire que l'arrêt du tabac, on va du jour au lendemain y aller se lancer. On peut le faire, évidemment. Il y en a pour qui ça marche, mais ça marchera à coup sûr si jamais on s'est préparé, qu'on a réfléchi à pourquoi est-ce qu'on fume. Quelles sont les situations difficiles qui vont me tenter? Quelle stratégie je vais mettre en place? Il faut vraiment tout border pour que le jour où on arrête de fumer, on ait les bonnes méthodes et le bon état d'esprit.
Le coaching dure quelques semaines. Beaucoup de salariés le font via leur entreprise qui organise des interventions comme celle d'Alice. Une démarche de plus en plus fréquente et qui signera bientôt peut-être la fin des pauses cigarettes entre collègues en bas de l'immeuble.
Pour ce mois sans tabac, 160 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme pour arrêter de fumer. L'autre motivation pour stopper, c'est le prix et ça le gouvernement le sait bien, le prix du paquet augmente aujourd'hui d'environ 50 centimes sous l'effet de la hausse des taxes. Entrée en vigueur aussi aujourd'hui de la réforme de l'assurance chômage qui inquiète les demandeurs d'emploi. Ce ne sont plus 4 mois qu'il faudra avoir travaillé sur 28 pour toucher ces indemnités, mais 6 au cours des 2 dernières années. Recharger ses droits aussi sera plus long, 6 mois contre 1. Les gagnants de cette réforme, les indépendants qui pourront toucher une rémunération et certains démissionnaires qui auront quand même droit à des indemnités pendant 6 mois. Des gagnants et des perdants aussi chez ceux qui touchent l'allocation adulte handicapé. L'amélioration de leur pouvoir d'achat était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Eh bien, cette allocation est aujourd'hui revalorisée, plus 40 euros après une première hausse de 41 euros en novembre 2018. Sur le papier, donc, du beurre dans les épinards, mais à y regarder de plus près, pas pour tout le monde, Sébastien Sabiron.
Après un premier coup de pouce l'an dernier, cette revalorisation porte à 900 euros le montant maximum de l'allocation versée sous condition de ressources à 1 200 000 personnes au total. Pour Jean-Louis Garcia, le compte n'y est pas. Il préside la fédération APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés.
Campagne électorale, présidentielle, le futur président annonce 100 euros. Aujourd'hui, on est 80 euros, donc ce n'est pas correct par rapport à la promesse. Deux, même en augmentant de 80 euros en 2 fois, le résultat est qu'on est au-dessous du seuil de pauvreté et ça, ce n'est pas tolérable pour une personne en situation de handicap.
D'autant qu'avec la prise en compte des revenus du conjoint, certains handicapés seront privés de cette hausse de 40 euros. Un quart des allocataires en couple sont concernés, précise le gouvernement. Mais selon les calculs de la page, certains pourraient tout bonnement perdre leurs droits. Jean-Louis Garcia.
En fonction des ressources du conjoint, l'allocation adulte handicapé peut baisser, peut disparaître. On va donc créer une double dépendance. Je m'occupe de toi, je t'aide, je te soigne, je te lave si nécessaire. Et en plus, tu vas dépendre de moi financièrement. C'est honteux.
Dans un communiqué, le secrétariat d'État aux personnes handicapées assure pourtant que le niveau des allocations restera stable, y compris pour ceux qui ne bénéficieront pas de ce coup de pouce.
Sébastien Sabiron, du nouveau aussi, ce matin à la tête de la SNCF. C'est aujourd'hui que Jean-Pierre Farandou, un ancien dans l'entreprise ferroviaire, chef de gare à ses débuts, succède à Guillaume Pépi. Arrivé dans un climat plus que tendu, débrayage sur plusieurs sites de maintenance en région parisienne. Côté trafic, la SNCF promet mais aujourd'hui et jusqu'à dimanche, 8 TGV sur 10 sur le réseau Atlantique, le point noir de ce mouvement.
7h37, la suite du journal. Une fusillade hier soir à Marseille, Faustine.
Des coups de feu dans un bar des quartiers nord de la ville. 6 personnes blessées, une grièvement. Et celui qui a ouvert le feu a pris la fuite, Olivier Martoc.
20h30, armé d'un fusil à pompe, un homme fait irruption dans le bar Le Terminus, dans le 15e arrondissement, les quartiers nord. Sans sommation, il tire à 7 reprises sur un groupe de consommateurs qui se trouve dans la salle. Puis s'enfuit à moto. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, 6 hommes sont à terre. L'un d'entre eux est conduit à l'hôpital en état d'urgence absolue. Le règlement de compte ne fait évidemment aucun doute. Ce bar, Le Terminus, a déjà été le théâtre d'une fusillade, il n'y a même pas un an. C'était en décembre. Surtout, à Marseille, on assiste depuis quelques jours à une reprise des règlements de compte. Le dernier en date remonte à dimanche, avec un homme abattu de plusieurs balles en début de soirée, alors qu'il marchait dans une artère passante. Pour les policiers, il y a une explication. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'il ne démantèle un réseau, avec parfois, comme la semaine dernière, de grosses prises, 350 kilos de cannabis et des armes. Beaucoup de trafiquants filent sous les verrous. Les territoires qu'ils abandonnent sont immédiatement convoités, avec comme corollaire ces règlements de compte. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
La sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, ancienne maire de ce 15e arrondissement marseillais, Samia Ghali, dénonce ce matin le silence, l'absence d'émoi et de dispositions politiques.
Et maintenant, une conséquence inattendue du report du Brexit pour des députés français.
Eurodéputés élus en mai dernier, mais qui ne prendront leur fonction que quand le Royaume-Uni aura effectivement quitté l'Union. La France gagnera alors 5 sièges, passant de 74 à 79. Mais un nouveau délai a été négocié jusqu'au 31 janvier. Alors en attendant, ces 5 députés patientent avec plus ou moins de facilité, Cyril Gardizani.
Certains de ces futurs eurodéputés se sont surnommés les congelés, voire...
On a même été jusqu'à parler de députés Picard.
Ilana Sicurel, future députée européenne Renaissance, le courant d'Emmanuel Macron en Europe, met à profit cette attente.
Nous avions le doigt sur le bouton décongélation et puis on a compris qu'il fallait encore attendre. Forcément, il y a un peu d'impatience, bien sûr.
Et comment justement vous la gérez, cette impatience ?
En politique, souvent, c'est la précipitation, vous faites une campagne et le lendemain vous entrez en fonction et on n'a pas toujours la chance d'avoir, alors pour pas parler de congélation mais de quelque chose qui est peut-être plus inspirant, de suspension. C'est-à-dire que vous avez quelques mois où vous savez que vous allez remplir une fonction mais vous avez le temps pour arriver plus prête que prête au moment où je pourrais agir pour l'avenir des Français et des Européens.
Depuis 6 mois, ces 5 élus un peu spéciaux guettent les rebondissements du Brexit. Claude Gruffa, pour Europe Écologie, lui, ne s'y voit pas encore.
On me dit, monsieur le député européen, non, je ne suis pas encore. Je suis en passe de l'être simplement si le Brexit a lieu, un jour. Et vu que ça fait 3 ans et demi que ça dure, je pense qu'il faut quand même encore mettre le si.
Le futur eurodéputé écolo, s'il devait choisir, privilégierait le maintien des Britanniques dans l'Union européenne à son siège à Strasbourg.
Les commissaires européens aussi doivent patienter pour être au complet. C'est aujourd'hui que la nouvelle commission devait entrer en fonction. Mais c'était avant l'éviction de 3 d'entre eux, dont Sylvie Goulard. C'est donc reporté à dans un mois, 1er décembre a priori.
Ce 1er novembre, c'est la Toussaint et les cimetières vont connaître leur pic de fréquentation ce week-end.
Le jour de tous les saints aujourd'hui, celui pour honorer les défunts demain. En France, de plus en plus de familles se tournent vers des obsèques alternatives ou écolo, comme l'utilisation de cercueils en carton, Étienne Monin.
Pascal Desfossé pour la société Alterco distribue des cercueils en carton depuis environ 4 ans. Il propose plusieurs formules et dit-il, c'est du 100% écolo.
La première utilité de ce cercueil en carton, c'est d'être une application pour le carton recyclé. Alors après, effectivement, nous nous inscrivons dans l'économie circulaire, nous utilisons des composants qui sont propres. Donc non seulement on recycle, je dirais, du produit, mais le produit que nous fournissons demeure un produit propre.
Cette année, la société a vendu 1500 cercueils. Les prévisions pour l'an prochain sont sur un triplement du chiffre d'affaires. La demande est très forte, dit Michel Conic, président de l'Association française d'information funéraire.
De plus en plus de familles et de personnes exprime le besoin d'avoir des obsèques responsables, la moins polluante possible, la plus respectueuse, une sorte de dématérialisation, et le fait que ces obsèques plus simples soient aussi moins onéreuses.
L'association estime la demande à 15-20%. Ces cercueils servent essentiellement pour la crémation. Les distributeurs accusent les pompes funèbres d'entrer lentement sur ce marché après avoir tenté de le freiner.
Un cercueil en carton qui pourrait atteindre 5% du marché dès l'an prochain. Et puis c'est une rencontre picturale posthume à Amsterdam. Rembrandt et Velázquez, les Pays-Bas face à l'Espagne, dialogue au pinceau. 350 ans après la mort des deux maîtres, le Rijksmuseum d'Amsterdam confronte leurs œuvres avec des similitudes frappantes, Jacqueline Petrose.
Deux pays en guerre durant 80 ans, deux peintres qui savent peu de choses l'un de l'autre. Le catholique travaille pour la cour d'un roi sombre et rigoriste, le protestant pour les bourgeois d'une république rigoureuse. Pourtant, leurs tableaux et ceux de leurs contemporains, accrochés en duo sur la foi, le pouvoir ou la richesse, dialoguent avec une correspondance surprenante. Taco Dibitz, directeur général du Rijksmuseum à Amsterdam.
À la même temps, toutes les deux pays a une âge d'or de la peinture. L'Hollande avec Rembrandt et Vermeer et l'Espagne avec Velázquez, Zurbarán et Murillo, parce que dans tous les deux pays, les peintres avaient le besoin, on peut peut-être dire, de recréer la vérité dans la peinture. Ils sont vraiment deux écoles qui n'avaient presque aucun contact. Et alors pour ça, c'est tellement intéressant de voir la terre commune que la peinture à la fin a.
Les autoportraits de Rembrandt et Velázquez interpellent, il y a une ressemblance certaine. Mais le plus spectaculaire, c'est le Saint Sérapion de Zurbarán et le signe de Jan Hassling. Un martyr en bure blanche, aux bras attachés, suspendus, et un signe, elle, déployé, défendant son nid jusqu'à la mort. Rien en commun, et pourtant, ces tableaux nous renvoient la même force et la même présence bouleversante. La sensibilité d'un artiste n'a vraiment pas de frontières.
Rembrandt, Velázquez, les maîtres néerlandais et espagnols à Amsterdam, donc jusqu'au 19 janvier.
Merci Faustine Calmel.